Radio Foot International est à Douala pour le CHAN 2021.
Bonjour à tous, nous sommes toujours à Douala, au Cameroun, qui organise le 6e championnat d'Afrique des Nations. Nous sommes donc toujours là et bienvenue dans cette émission du jour. Le tenant du titre est entré en lice hier pour remettre son titre en jeu. Il a commencé par une victoire. Le point donc sur la compétition, sur ce CHAN dans notre émission, où on le remarquera, il n'y a pas beaucoup de buts. Mais au pays des lions indomptables, nous voulions aussi nous arrêter sur cette nation qui aime et apprécie tant le football, une passion camerounaise, et vous l'entendrez. À raison d'ailleurs, parce que cette équipe a un beau palmarès, le beau palmarès des lions, et puis ses joueurs légendaires comme Roger Milla et Samuel Eto'o, ou encore Joseph-Antoine Bell. Bonjour Joe.
Bonjour, bonjour Annie, bonjour à tous, bonjour
Claude. Collaborateur de RFI et des si nombreuses cannes que vous avez déjà réalisées avec le service des sports, n'est-ce pas, sur le terrain?
Oui, mais justement, il faut bien faire la séparation entre cannes et CHAN. Et je suis d'accord que le Cameroun a un beau palmarès, mais pas en CHAN.
Ça va venir, qui sait ?
Donc la vérité est que... pour le CHAN, le Cameroun est un petit pousset.
Ben, peut-être pour beaucoup de monde, mais en tout cas RFI a choisi de couvrir cette compétition qui est un peu l'avant CAN. Hein,
ah oui, oui, mais ça c'est autre chose.
Là. Les installations.
Vous en faites pas, vous êtes venu faire un tour et tout le monde doit comprendre que Annie est venue au Cameroun pour repérer pour la CAN.
Pour la prochaine. Alors il y a aussi, vous l'avez déjà salué, ce sorcier blond. Et si je dis blond, c'est parce que je fais allusion à un livre qui sortira bientôt, n'est-ce pas? Bonjour Monsieur Claude Leroy.
Bonjour Annie, tout va bien?
Tout va bien.
Bonjour Jo et bonjour tout le monde.
Vous qui avez gagné une CAN avec les Lions, quand vous revenez au Cameroun?
Avec Jo comme gardien de but, sauf le premier match.
Qu'est-ce que ça vous fait quand vous revenez ici au Cameroun? Ou du moins, quelles sont les réactions autour de vous?
Ça va paraître un peu prétentieux, mais c'est absolument incroyable. Quoi. Le comportement des Camerounais à mon égard... C'est... Eux, ils ont l'impression que je leur ai apporté beaucoup de choses, alors que moi, j'ai vraiment le sentiment que je dois beaucoup à ce pays. C'est-à-dire que je suis arrivé ici très jeune, j'ai 36 ans. Hein. Et puis, au début, on ne voulait pas du tout de moi. La population camerounaise ne comprenait pas très bien qu'on ait laissé ce patrimoine national à un jeune Blanc-Bec qui avait été connu un peu comme joueur, mais qui démarrait dans la carrière d'entraîneur. Et on a bossé comme des fous, et puis petit à petit, les résultats sont venus. Les résultats parce que j'avais aussi des joueurs d'une qualité exceptionnelle. On a beaucoup travaillé. Petit à petit, on a remplacé une équipe qui avait déjà été championne en 84 en Côte d'Ivoire, avec Joe. Et ça a été le début d'une aventure, amoureuse.
Ouais. Alors on va y revenir, même si là, vous n'êtes pas là, vous êtes là au Cameroun, mais vous êtes venu pour suivre le CHAN et pour suivre l'équipe du Togo qui est participante et qui a commencé à jouer hier soir. Nous avons aussi un confrère camerounais autour de cette table, un habitué de Radio Foot, hein, c'est le correspondant de l'émission, et vous travaillez maintenant pour Maya TV, c'est Jean-Bruno Tain. Bonjour Jean-Bruno.
Bonjour Annie et bienvenue au Cameroun.
Merci. Alors vous êtes de Yaoundé, mais vous avez fait l'effort de venir nous retrouver ici. Et puis
Absolument.
Évidemment, il y a Eric Mamrud qui est au chevet du CHAN pour nous. Bonjour Eric.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Au générique aussi, David Finzel et Laurent Salerno. Il y a aussi Dominique Fian et Benjamin Availlou pour ce qui est de la réalisation vidéo, puisque vous pouvez nous regarder en Facebook Live sur la page Facebook de Radio Foot. Il n'est pas au générique, mais on lui fait un petit clin d'œil, c'est à Rémi Ngono. Tout le monde nous demande de ses nouvelles, il va bien et il continuera à faire partie du Café des Sports. Pour l'instant, Radio Foot, c'est parti. القانونية بعد 27 دقيقة جبران يتقدم جبران والهدف الأول نعم
أخيرا المنتخب المغربي يفعل ويسجل عن طريق يحيى جبران من ضربة الجزاء بعد أن قرر الحكم إعادة التفيل 1-0 بعد السيطرة الميدانية.
Les champions en titre arrivent et gagnent hier soir dans le groupe C de ce CHAN au stade de la réunification Bépanda de Douala. Le Maroc a battu le Togo, le tenant du titre contre les débutants au CHAN. Eric Mamrut, il y a eu un seul but, c'est le but de la victoire qu'on vient d'entendre commenté par nos confrères du Maroc.
Un seul but inscrit sur pénalty à la 25e minute par Yahya Sabran qui a subi la faute, donc il s'est fait justice lui-même. Après, c'était pas une faute flagrante, peut-être. On pourra peut-être en discuter sur l'arbitrage également. Reste que bon, il s'y est repris à deux fois, Sabran, puisque la première tentative a été repoussée par Kossi Adri, mais l'arbitre l'a jugé qu'il avait un peu anticipé. Il avait quitté sa ligne, sa jauge. S'il a vu l'image, pourra nous donner son avis. Reste que le Maroc, quand même, on sentait qu'il était en maîtrise, s'est procuré beaucoup d'occasions par notamment Ayoub El Kaabi, le meilleur buteur du dernier CHAN en 2018. Il avait inscrit 9 buts. Non, il a eu beaucoup d'occasions, mais on sent que depuis, il a perdu quand même un peu de son efficacité. Il est beaucoup moins mordant. Il a eu quand même beaucoup de balles de buts. Kossi Adri a été très bon. Il a dû repousser pas mal de tentatives des Marocains. Et le Togo, peut-être un peu timide au début, a senti que peut-être il y avait quand même un coup à jouer. Et en fin de match, aurait pu arracher le match nul. Donc sans doute un match frustrant à l'arrivée pour les éperviers. Mais dans les faits, le Maroc, quand même, à mon avis, était au-dessus.
On va entendre le capitaine des éperviers, justement, Niama Akate. Il était à votre micro hier soir en sortie de match.
J'ai senti qu'ils étaient plus expérimentés que nous, mais pas trop supérieurs à nous. On a joué contre une équipe compacte, plus expérimentée. Parce que c'est celles qui sont championnes en titre. Donc, ce n'était pas facile, mais on n'a pas été ridicule. On a essayé parce qu'on a une équipe jeune, contrairement à celle du Maroc. Ils sont plus en compétition que nous parce qu'il y a le championnat là-bas, chez nous pas encore. Donc, il y a tous ces facteurs. Mais l'essentiel, c'est qu'on a perdu sur seulement un détail. On essaiera de corriger pour bien aborder le prochain match.
Vous le disiez, le championnat est arrêté depuis un an. Comment vous sentez physiquement?
On a travaillé physiquement. Physiquement, on est prêt. Sinon, on allait prendre un bouillon ce soir. Mais ça, du coup, physiquement, on est prêt. On a tenu tête à l'équipe du Maroc, mi été ce pénalty. Quand on perd le match, on n'est pas content. Mais on sait qu'il y a eu de bonnes choses et puis il y a des erreurs. On cherchera à corriger. L'essentiel, c'est qu'on récupère vite pour bien aborder le prochain match.
Claude Leroy, on entend le capitaine de ces éperviers. Est-ce que c'est le manque de forme physique, peut-être, qui déjà est un handicap pour ces joueurs qui débutent dans le tournoi?
Annie, avant toute chose, moi je vais revenir sur ce que Eric a dit. C'est vrai que globalement sur le match, les Marocains sont créés plus d'occasions. Il n'y a pas de discussion possible, mais ils ne les ont pas mises au fond. La faute dont il a parlé, il n'y a aucune faute. C'est-à-dire que notre joueur ne touche même pas le joueur marocain. C'est-à-dire que c'est une faute complètement inventée par l'arbitre. Alors, il faut quand même donner son nom, monsieur Ando Fetra Rakoto Jaouana. C'est monstrueux, l'arbitrage.
Il est tout proche de l'action.
Mais justement, de toute façon, on ne va pas faire un procès d'intention, mais avec tout ce qui s'est passé dans toutes les élections, le président de la CAF malgache, un arbitre malgache, un président mis sur les cimes du football africain avec le Maroc à fond derrière. Donc, je ne vais pas jouer les complotistes, en ce moment, ce n'est pas la période, à la veille du 20 janvier aux États-Unis. Mais moi, j'ai trouvé l'arbitrage absolument invraisemblable. Il y a un pénalty sur Nan à la 82e minute, il faut tout regarder, où il se fait découper par le gardien de but, mais il le met à l'horizontale au moment où il a marqué un but. L'arbitre fait croire qu'il a vu une main, alors qu'il n'y a aucune action qui entraîne la main, pour siffler un coup franc pour le Maroc. Donc là, il faut quand même que la CAF réagisse. L'entraîneur marocain, qui est d'une grande honnêteté, était très gêné, même à la fin du match. Même dans la conférence de presse, il a dit quoi? Il a dit, ouais, ça aurait pu faire un 1. Même si sur le jeu, dans le global, il y a eu une maîtrise un peu supérieure de cette équipe marocaine, mais bon. On voit le championnat marocain. Moi, je viens de passer 15 jours au Maroc où j'ai vu beaucoup, beaucoup de matchs. Et dans un championnat contre un championnat togolais où il n'y a pas de championnat depuis un an. Et qui, avant, pendant 3 ans, avait été suspendu. Donc c'est-à-dire sur les 7 dernières années, il n'y a pas eu de championnat pendant 4 ans.
Ouais.
Mais Jean-Paul Abalot, l'entraîneur de cette équipe, avec son staff, ils ont fait un travail formidable. Ils ont bossé depuis 8 semaines et demie comme des fous. Ils n'ont pas pu faire tous les matchs amicaux qu'ils voulaient parce que des équipes, à cause de la Covid, se sont désistées. Mais ils ont véritablement fait un travail remarquable parce qu'il y a eu une période en seconde mi-temps où on a pris le match à notre compte en développant du jeu à une touche, en essayant de chercher du jeu extérieur. Et à ce moment-là, le Togo a très bien joué. Alors, l'analyse est bonne globalement. On peut dire victoire méritée, mais sur des faits de jeu invraisemblables.
Jean-Bruno, vous avez vu comment vous ce match?
Oui, je pense que effectivement il y a eu quand même un petit problème.
Précisons-le, cette compétition, il n'y a pas de VAR, hein, parce que maintenant on s'est beaucoup habitué, notamment en Europe et dans les grandes compétitions, à voir la VAR. En l'occurrence, là, il n'y en a pas.
Pas au quart de finale.
Alors,
je crois qu'à partir des quarts de finale, il y aura.
En tout cas, sur le match d'hier, il y en avait.
Ah non, oui, c'est sûr.
Oui, parce qu'effectivement, il y a eu ce problème d'arbitrage là, qui aurait pu être corrigé par la VAR si la VAR était prévue. Voilà. Maintenant, il faut reconnaître quand même que c'est un début de compétition et il faut voir si les arbitres par la suite vont quand même reprendre un peu plus. Confiance et conscience également que le match se joue sans la VAR et être beaucoup plus rigoureux dans les décisions, parce que quand on regarde ce match, c'est assez frustrant d'avoir ce type de faute d'arbitrage là.
Ouais. Confirmation, non pas dans l'oreillette parce que j'en ai pas, mais de David Finzel qui est pas loin, il y aura bien la VAR à partir des quarts de finale sur la compétition.
J'ai lu le règlement.
Merci Claude, j'avoue, j'avais pas lu le règlement avant et c'est vrai que c'était une interrogation qui restait. Aujourd'hui, il y a le groupe D qui entre en jeu avec deux matchs, Zambie-Tanzanie et Guinée-Namibie. Je voulais un petit mot de vous, Jean-Bruno Tagne, sur le lieu où ça se passe, parce que c'est dans la ville de Limbé, c'est pas très loin d'ici, en voiture à peu près à 45 minutes de Douala, plus à l'ouest, dans la zone anglophone où on le sait, il existe des tensions depuis de nombreux mois. Cette fois, une milice séparatiste avait menacé la CAF. Alors d'abord par courrier, il y a aussi des véhicules qui ont été incendiés deux jours avant le coup d'envoi. Est-ce qu'il y a véritablement une peur ou un danger sur ces matchs et sur finalement ça, ce qui pourrait entacher la compétition? On se souvient tous de malheureusement ce qui s'était passé au Cabinda lors d'une Coupe du Monde,
d'Afrique des Nations précédente. Oui. Alors en fait c'est une situation qu'il faut prendre très au sérieux et les autorités camerounaises prennent les menaces des sécessionnistes amazoniens très au sérieux et il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour essayer de préserver le lieu. Il faut dire quand même que la ville de Boya est un peu moins en difficulté par rapport à cette guerre que dans le nord-ouest à Bamenda où la guerre est beaucoup plus chaude. Mais c'est quand même une situation qui inquiète parce que le Cabinda, c'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations de 2010 qui avait quand même entaché la compétition. Et donc comme les autorités camerounaises ont besoin de rassurer le monde, l'Afrique du football, quant à sa capacité d'organiser ce CHAN, mais également la Coupe d'Afrique des Nations de l'année prochaine dans de bonnes conditions. Je pense que tout est en train d'être mis en œuvre, mais ce sont des menaces qui sont prises très au sérieux parce que la première menace est venue longtemps avant le début de la compétition, parce que dans la communication et la propagande des sécessionnistes, ils ont besoin d'un coup d'éclat devant le monde entier qui est rassemblé au Cameroun pour cette fête du football et ils ont bien dit nous ne voulons pas de cette compétition sur notre territoire. Donc ils ont besoin de réaliser quelque chose de terrible de ce genre pour se faire entendre. Et en face, le gouvernement a besoin de rassurer la population, de rassurer la communauté internationale quant à sa capacité à tenir.
Et à organiser la prochaine compétition,
absolument,
bien sûr.
Jean-Bruno disait ça a entaché la CAN, ça n'a pas entaché, ça a endeuillé.
Oui.
Les deux, parce que la réaction de la CAN, on s'en souvient, avait été surréaliste. Et du coup, il y avait eu encore plus de... Mais bien sûr, il y avait eu deux morts.
Le gardien de but de l'équipe nationale de Togo, jusqu'à aujourd'hui, il est handicapé pour tout le restant de ses jours.
Coach Jovi Obilalé, bien sûr.
Le staff qui est mort. Donc ça a été quelque chose de terrible. Et c'est vrai que les décisions prises après ça étaient quand même surréalistes.
Et c'est très important effectivement de faire attention. On continue avec de la musique. Ça sera un peu plus gay. Ce morceau, Douala Sérénade, on le doit au grand Manu Dibango. Impossible de réaliser une émission à Douala sans penser à lui. L'une des premières victimes du coronavirus en mars dernier, le célèbre musicien, saxophoniste, était né ici et il nous avait raconté dans une émission, c'était pour ses 80 ans, la pratique du football dans son pays lorsqu'il était enfant. Écoutez Manu Dibango.
Je suis un amateur de football depuis très très longtemps, forcément. C'est le truc le moins cher qu'on a dans les quartiers quand on est môme. On commence à jouer avec des trucs d'orange et puis on a ses héros et tout ça, et puis au fur et à mesure qu'on avance, on constate qu'on a toujours l'amour du ballon rond, quoi.
Vous jouiez au football quand vous étiez petit avec des copains?
Très mauvais joueur, très très mauvais joueur, mais je suis un bon amateur par contre, dans le bon sens du mot.
Ouais, avec un grand bon supporter.
Un grand supporter du beau football, oui.
Mais dans les rues de Douala, on vous voyait de temps en temps shooter dans une bouteille ou dans
non,
un...
Non, je suis parti quand même assez tôt. J'avais 15 ans. C'est plutôt... Mon éducation, dans ce sens-là, a été faite dans la Sarthe, puisque j'ai débarqué dans la Sarthe à l'époque, quoi.
Ouais.
J'ai toujours la flamme, quoi.
Vous n'avez jamais rêvé d'être footballeur?
Ah non, par contre, non, j'ai jamais rêvé d'être sportif. J'étais déjà bien heureux d'aimer la musique. Vous savez, il y en a peut-être qui ont deux ou trois passions. J'en ai une et puis il y a des satellites.
Il y avait eu cette CAN, évidemment, 1972, à laquelle Manu Dibango avait été associé, chargé de l'hymne, qui comportait une phase B, sans doute heureusement pour lui et pour le monde de la musique, c'est le fameux Saul Makossa. Vous le connaissiez, Joe, je me souviens que vous aviez témoigné au moment de sa disparition pour Radio Foot.
Oui, mais Manu nous manque. C'est terrible.
Claude, le football de rue comme ça en Afrique, ça se passe encore?
Heureusement. Heureusement que ça se passe encore. Au Sénégal, il y a toujours les navetanes, qui sont ces compétitions hors circuit fédération organisées à un moment de la saison des pluies. Et dans ces championnats de rue, vous découvrez toujours, de temps en temps, un joueur. Moi, au Togo dernièrement, enfin, je suivais un petit gamin qui avait 14 ans, Josué, et puis à 16 ans, il a commencé à jouer avec moi en équipe nationale. Et c'était dans un petit stade de quartier. Partout, il faut, quelquefois, vous voyez 20 ou 30 matchs, vous ne voyez pas un seul talent. Mais il faut persévérer, il faut aller partout, il faut essayer de dénicher, il faut avoir envie de découvrir. Mais c'est pas normal d'en être encore là et que ça n'ait pas plus progressé. Le problème de fond, il est là. C'est-à-dire que tant qu'on n'améliorera pas la qualité des éducateurs, en premier, le boulot, il doit être fait là-dessus. C'est-à-dire que vous avez des enfants, ils rentrent au CP, et bien vous voulez que... pour l'apprentissage de la lecture et du calcul, vous ayez le meilleur instituteur ou la meilleure institutrice. C'est pareil pour le foot. C'est-à-dire que on peut pas laisser n'importe qui diriger la formation des enfants. Il faut des éducateurs diplômés. Il faut éviter, parce qu'il y a plein de conneries au niveau physiologique qui ont été faites. Plein d'erreurs. Savoir qu'on a fait travailler en résistance des gamins à l'âge de 14-15 ans. C'est-à-dire que avant de développer la cavité cardiaque, pour le faire tout simple, on a musclé le cœur, après il n'y a plus de possibilité de développer la cavité cardiaque. Donc bien évidemment, ce joueur aura toujours des problèmes physiologiques pour le très haut niveau, parce que sans le vouloir, un éducateur a voulu le faire travailler, faire du travail de résistance, beaucoup trop jeune par rapport au développement du corps. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment des gens de très grande qualité, et l'Afrique en a besoin.
Joe, on en voit encore des enfants ici à Douala jouer dans la rue? Parce que je me souviens, par exemple, au Brésil, on disait il y a de moins en moins de place, c'est de plus en plus bétonné,
exactement,
donc ils jouent sur des endroits
exactement
bétonnés.
Claude dit les choses, il faut qu'il aille au bout. Parce que pour avoir... non, c'est pas ça, justement, c'est pas ça. C'est que pour avoir... les bons formateurs, en réalité, faut commencer par avoir de bons dirigeants. C'est eux qui savent qu'il faut de bons formateurs. Or là, le problème que nous avons en Afrique, c'est que dans nos fédés, nous avons des gens qui ne comprennent pas souvent. Donc du coup, on pense que n'importe qui peut être en charge d'une équipe. Et quand il a dit qu'il y a encore des... Oui, il va voir des garçons dans la rue. Heureusement, il a rajouté, c'est dommage qu'on en soit encore là.
C'est là le problème. Moi, je suis d'accord qu'il y a 40 ans, on ait fait ça. Je sais comment je suis devenu footballeur professionnel. Mais ce serait terrible qu'aujourd'hui, un garçon, pour devenir footballeur professionnel, prenne la même voie. Il n'y arrivera pas. Donc, et si mon expérience n'a servi à rien, ça, bon, Dieu va nous tourner le dos. On vous a donné, vous avez compris, vous devriez mettre quelque chose en place. Donc, vous devez comprendre qu'est-ce qu'il vous faut, comment on organise tout ça. Donc, quand vous avez des gens qui ne savent pas quel est leur rôle de dirigeant, ils ne choisiront pas. Voilà.
Oui, Jean-Bruno. Annie, c'est les petits stades de quartier sont en train de disparaître et c'est bien dommage parce qu'il y a une urbanisation qui n'est pas toujours contrôlée et du coup les petits stades de proximité qu'on avait dans des quartiers et qui permettaient aux enfants de faire leur premier pas dans le foot sont en train de disparaître. Dans les écoles, il y a des établissements scolaires qui n'ont pas des aires de jeu. Les championnats de vacances qui ont vu naître de nombreux talents sont en train de disparaître. D'espace de jeu et même dans la politique de développement des infrastructures sportives dans ce pays, on a privilégié la construction de très grands stades alors qu'on avait besoin d'abord des stades de proximité dans les quartiers qui vont favoriser voilà, la pratique du football dans un environnement à peu près acceptable. On ne peut plus continuer à jouer dans la poussière comme le faisait Joseph Antoine Bell.
Claude a parlé de la maternelle. En fait, le truc, c'est que nous avons, quand vous avez des gens qui sont pas compétents, ils ont pas la bonne vision.
Oui.
Ce qui se passe, c'est que nous avons des gens qui vont se vanter d'avoir une université, alors qu'il y a pas de lycée, il y a pas de collège. Il y a pas, c'est pas le stade de Japoma qui va développer le football camerounais. Ils le savent pas. Je les entends tous les jours parler. C'est pas ce stade-là. C'est qu'est-ce que vous faites pour jouer à Japoma.
Avant d'arriver à Japoma.
Il faut être déjà très bon. Sinon, vous jouerez à Japoma sans marquer de but. Bon,
non, mais pourtant, il y a plein d'exemples qui montrent comment il faut travailler. On voit le nombre, juste un pays, on voit le Sénégal, qui a trois clubs formateurs avec vraiment un encadrement de qualité. Diambar, Génération Foot et Sacré-Cœur. Combien de footballeurs professionnels sortent du Sénégal tous les ans? Tous les ans, c'est-à-dire que Metz a son vivier Lyon maintenant au Sénégal parce qu'il y a une idée, il y a un concept, il y a des très bons terrains d'entraînement, il y a un suivi alimentaire, il y a un suivi médical. Et
il y a un programme, quoi.
Oui, Mazembe, à partir du moment où ils ont commencé à faire les choses bien dans l'organisation et tout, ils ont... Jean-Marc Guillou en Côte d'Ivoire, quand il a travaillé à Solbeni, on a vu la génération de footballeurs ivoiriens qui a émergé et qui sont devenus des footballeurs de niveau mondial. Donc, pourtant, il y a des exemples qui montrent que c'est la voie à suivre.
Alors en plus, heureusement, le Cameroun a la passion pour ce sport, hein, où qu'il l'apprenne et où qu'il le pratique. On va entendre une joueuse qu'on a rencontrée, alors, je dirais une joueuse très sérieuse, même si c'est pas une professionnelle. Elle s'appelle Capine Tekla Bayinga. Elle se présente comme un garçon manqué. C'est comme ça qu'elle était quand elle était petite, parce qu'elle joue toujours. Ça fait 20 ans, par plaisir et par passion. Écoutez-la.
J'adore le foot, je mange le foot, je bois le foot, je respire le foot.
Et pourquoi cette passion?
Parce que depuis toute jeune, voilà, j'ai toujours aimé le ballon. Et quand j'étais encore à l'école, ici au Cameroun, nous avions les OSUC, les jeux des lycées. Alors tout le temps, je partais, je jouais et je me disais, ben voilà, pourquoi les hommes font le foot et nous, on ne peut pas faire le foot. Et puisque j'avais beaucoup d'énergie et le souffle, ben, j'étais très contente de pousser le ballon.
Vous étiez quoi, attaquante?
Toujours.
Et vous avez marqué beaucoup de buts?
Oh, j'ai marqué tellement de buts. Je me suis dit, si je fais des garçons, ils doivent surpasser le nombre de mes buts.
Et alors?
Dieu merci, j'en ai un qui... est en train de suivre vraiment mes pas.
Vous avez deux garçons et les deux jouent au football?
Oui. Il y a un qui est attaquant, il y a l'autre qui est défenseur.
Ils jouent où? Ils jouent à Douala?
Oui.
Dans quel club?
Il y a le premier qui joue à l'Union Sportive de Douala et l'autre qui n'est pas au Cameroun.
Il est où l'autre?
Il est en Algérie.
D'accord.
Ouais.
Et ils vont participer au CHAN?
Oui, il y a le premier qui devait participer au CHAN, mais malheureusement... on ne peut pas tous être au stade. Ouais. le coach a fait son choix et ben voilà.
Et vous participez vous au CHAN, est-ce que vous avez l'impression qu'ici au Cameroun il y a un intérêt pour cette compétition en ce moment qui est le championnat local finalement avec les joueurs locaux?
Oui, il y a beaucoup d'intérêt parce qu'il y a de l'engouement partout et tout se passe très bien, tout le monde est content, nous sommes fiers d'avoir le CHAN avec nous. Tout le monde est impliqué, comme je le dis tout le temps, c'est notre affaire à tous. Let our CHAN shine. Donc, nous allons tous mouiller les maillots.
La passion football n'est donc pas qu'au masculin, elle est au féminin. Alors, les Lions, ici, les Lyonnes, on parle beaucoup de Ajaran Chout en ce moment en Europe, où elle commence à briller avec l'Atlético Madrid. Mais les Lions, indomptables, possèdent l'un des plus beaux palmarès d'Afrique, 5 trophées continentaux et un record de participation à une Coupe du Monde à 7 reprises et des participations qui ont marqué les esprits. Claude, est-ce que vous avez eu l'impression, quand vous êtes venu travailler ici, quand vous y revenez, qu'il y a une passion différente au Cameroun et dans d'autres contrées, je dirais?
Je pense que c'est le pays d'Afrique où l'équipe nationale est partout, ça compte énormément dans tous les pays, mais je pense qu'ici, c'est assez particulier. Lyon indomptable, c'est vraiment, je disais tout à l'heure, c'est le patrimoine national. Il y a une histoire entre ce pays et cette équipe nationale, bon, qui date des années 80, après un énorme revers en 72 pour la Coupe d'Afrique des Nations qu'ils organisaient, ils ont été sortis en demi-finale, mais ça avait été un choc, un peu comme le Brésil, l'Uruguay si célèbre des Coupes du Monde, et puis après, des joueurs sont arrivés, ils ont commencé à gagner des titres, à se qualifier aux 7 Coupes du Monde, vous vous rendez compte, c'est énorme. Et puis, il y a l'aventure de 90 qui a marqué définitivement, offert tous les amoureux du football dans le monde, et bien évidemment au Cameroun, par cette performance des quarts de finale qui aurait pu presque aller un petit peu plus loin, quoi.
Roger Mila, parlez-nous de ce joueur avec lequel vous avez travaillé.
Avec lequel je joue encore.
Oui, mais
je disais tout à l'heure, c'est du cristal, quoi. Je crois que c'est un des rares joueurs avec lesquels j'ai pu passer des semaines d'entraînement sans véritablement le voir faire une seule faute technique, quoi. C'était une pureté technique incroyable. Une vie de professionnel. Très exigeant par rapport à lui-même. Par contre, où il fallait faire attention, c'est quand il voulait commencer à intervenir dans le débat tactique, où là, on l'arrêtait souvent parce qu'il était capable, sur sa passion, sur son emportement, il était capable de dire n'importe quoi à la mi-temps d'un match, quoi. Il pouvait dire « Je t'ai dit qu'on pouvait gagner 15-0 ce match !» Donc on calmait Roger, mais c'est vraiment la pureté footballistique parfaite en termes de technique. Là, c'est pareil, sa carrière a dépendu des méandres d'une vie professionnelle où il est arrivé à Valenciennes avec un président Bakar Zina qu'on ne peut pas dire qu'avait l'Afrique chevillée au corps ni au cœur. Donc il est parti sur une mauvaise base parce qu'il aurait dû faire une carrière absolument exceptionnelle dans les plus grands clubs européens, quoi.
Souvenons-nous, Coupe du Monde 1990, le Cameroun commence tout de suite et il commence d'entrée en s'attaquant aux champions en titre, ce sont les Argentins. Et il y a ce match incroyable face à Maradona et à ses camarades.
Continuant sur sa lancée, le Cameroun se qualifie ensuite pour la Coupe du Monde 1990 organisée en Italie.
Maradona, Caniggia, who's certainly quicker, and
his... Le but d'Omam Biyek donna aux Lions une avance qu'ils surent conserver jusqu'à la fin. Le score final assomma littéralement les champions en titre, mais ne parut pas surprendre outre mesure une équipe du Cameroun très sûre de ses capacités.
Joseph-Antoine Bell, racontez-nous cette aventure, cette épopée, parce que c'est ça qui fait partie aussi de la légende du Cameroun. Et je pense qu'en Europe et partout, on se souvient de ce moment, de cette équipe, de Roger Mila, de ses danses quand il marquait. Ça a énormément enjoué les gens aussi.
L'histoire est trop longue, c'est un livre à part. Mais seulement, ce que je peux dire, c'est que nous avons réussi à creuser le fossé du Cameroun. C'est-à-dire que précisément, grâce à cette performance, ceux qui n'y ont pas réellement contribué ont eu raison sur nous. Ils se sont mis à raconter que le Cameroun réussit dans le désordre. Voilà, et ça, ça nous a désavantagés. Ça fait que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui croit qu'il faut planifier quelque chose. Or, ils ne savent pas ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde. J'ai même écrit un livre, ils ne lisent pas pour voir que c'est pas ce qu'ils pensaient. Ils ne voient, par exemple, ils vous ont dit, mais Bell, il a pas joué parce qu'il a dit que l'Argentine allait gagner. Aujourd'hui, vous écoutez n'importe lequel des plus grands coachs qui rencontre n'importe laquelle des plus petites équipes qui lui trouve des raisons de gagner le match. Et là, eux, ils trouvaient que de dire que dans un match, le champion du monde en titre contre une équipe qui vient d'être éliminée au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, dire que le champion du monde est largement favori, c'est être traître. Bon, évidemment, c'était le décalage entre le pro, moi, et tous ces, je ne vais pas dire des analphabètes, ces profanes.
Il y a eu un autre exemple, c'était la France battue par le Sénégal, en 2002 après.
Les gens ont cru que c'était la preuve qu'on n'a pas besoin d'être préparé. Ils n'ont jamais su qu'on avait été préparé, malgré le fait que quelqu'un n'ait pas conçu cette préparation, que nous, en interne, avec notre entraîneur, on s'était réunis, on a mis les choses en place pour corriger, atténuer les effets du manque de conception de nos dirigeants. Et ce n'était pas la première fois. Moi, j'étais déjà là en 82. Et 82, ça ne s'est pas su. Aujourd'hui, Jean-Vincent est malheureusement décédé. S'il était là, il vous dirait qu'il a vécu quelque chose d'extraordinaire.
La participation à l'autre Coupe du Monde.
À Coupe du Monde en Espagne. Je vais schématiser. Nous jouons le dernier match contre l'Italie. Nous avons deux matchs nuls comme l'Italie. Nous sommes en passe d'écrire l'histoire en passant au deuxième tour. Mais nos dirigeants refuse de concevoir qu'il pourrait seulement nous promettre une prime. Promettre. Donc, la veille d'un match aussi décisif, on est encore dans des discussions parce que ces messieurs, dames ne veulent pas lâcher 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA. Et à la mi-temps du match, on est toujours match nul. Jean-Vincent n'en croit pas ses yeux. Il n'y a pas un seul dirigeant qui pourrait prendre l'initiative de dire au gars, même si c'est un mensonge, je viens d'avoir le président, il dit que. Impossible! Voilà des gens formatés à comme des soviétiques qui vous chantaient la valeur du drapeau, alors qu'ils sont habillés à des costumes de grandes marques que le drapeau ne leur a pas offert, ils ont acheté, ils étaient incapables de dire aux joueurs, voilà pour le pays, le chef de l'État a dit que vous aurez une villa, après on verra si vous ne l'aurez pas. Mais au moins pour motiver, pendant ce temps en face, les Italiens étaient totalement paniqués par cette équipe, parce que d'autant que Berzot, leur entraîneur, avait déclaré au moment du tirage au sort qu'au dernier match contre le Cameroun, ce sera le moment de soigner le goal average. S'il leur faut des buts, ils en marqueront.
Et c'était pas le cas.
C'était pas le cas.
Jean-Bruno,
c'était terrible. C'est terrible notre conception des choses.
Qu'est-ce qui a eu le plus d'importance dans selon vous, dans la légende qu'il y a autour des Lions Indomptables ici au Cameroun?
Alors c'est vrai qu'il y a le phénomène de 90, bien sûr. Après 90, l'un des plus grands exploits du football camerounais, c'est les victoires successives de 2000 et 2002, où on remporte la CAN deux fois de suite. Ça, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, avec à la clé une excellente génération de footballeurs, Patrick Mboma, Samuel et tout. Voilà. Donc, ce que Bell dit est quand même symptomatique de ce qui se passe dans ce pays. C'est-à-dire que quand je discute avec les anciens footballeurs du Cameroun, j'en ai longuement discuté avec Joseph Antoine Bell sur 1990. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on fait pour gagner dans un environnement pareil? Et après, j'ai couvert des Coupes d'Afrique, oui, des Nations, Coupes du Monde et tout. C'est le désordre tout le temps. Et finalement, on a le sentiment que c'est dans le désordre qu'on gagne. Sauf que malheureusement, en Coupe du Monde, et Bell aime le rappeler, c'est que depuis 90, les gens ne s'en rendent pas compte, on n'a plus franchi le premier tour. Ça veut dire que à un moment donné, il va falloir s'asseoir, bien organiser les choses pour utiliser à bon escient les talents que nous avons.
Alors justement, dans un an, pour les Lions Indomptables, eh bien, ça sera le défi, recevoir la 33e CAN devant leur public, chez eux, organiser cet événement. Eux qui ont remporté il y a quelque temps cette compétition, c'était au Gabon en 2017, où on avait eu un refrain très particulier d'ailleurs. Jean-Bruno, est-ce qu'ils sont toujours indomptables, les Lions? Est-ce qu'ils peuvent la gagner, cette prochaine CAN? La sixième pour le pays.
C'est possible, surtout qu'on jouera devant le public camerounais. C'est un avantage non négligeable pour le Cameroun. C'est vrai qu'en ce moment, l'équipe nationale du Cameroun ne se porte pas très très bien. Il va falloir du boulot. Il va falloir du boulot. On a de moins en moins de très grands joueurs. Donc, il faut du boulot. Et si on prend l'exemple de 2017, on a remporté la CAN avec une équipe tout à fait modeste, pour ne pas en dire plus.
Et les infrastructures, en tout cas, ont l'air d'être là. Hier, on est allé au stade de Japoma et on va voir ce beau stade qui eh bien, provoque beaucoup de commentaires au micro de David Finzel et Laurent Salerno. Ouais.
Majestueux stade, ce magistral stade de Japoma. Oui. Un stade nouvellement érigé, mais vraiment, on apprécie le geste du président Paul Biya.
Le sol est tellement agréable, vraiment. Nous félicitons les ingénieurs qui ont pris part aux travaux. Et vraiment, je félicite beaucoup également tous ceux qui sont là pour supporter nos chers pays, qui sont les pays voisins. Là, nous félicitons réellement. Avec la joie, nous sommes là. Nous vous remercions.
C'est l'une des meilleurs stades et des plus beaux stades au monde. On va profiter de ça au maximum, en temps voulu. Et on peut revenir à chaque fois à regarder beaucoup de matchs ici, au stade, au complexe magique de Japon.
Numéro 5, Salah Adel Sadou. Numéro 5, Mounaz Hussein. Numéro 10,
Eric.
C'était dimanche qu'il y avait une vraie curiosité de la part des Camerounais. Une vraie attente, enfin, ils voulaient voir ce stade, ce bijou. C'était un événement, ouais. Au-delà même du match.
C'est le stade que les gens allaient
découvrir.
Voir.
Ils se sont même déplacés, même s'ils savaient qu'ils n'avaient pas rentré, peut-être parce qu'évidemment la jauge était limitée.
Était très limitée.
Il y avait une vraie fierté, une vraie joie. On sentait cette effervescence.
Oui. Alors, c'est vraiment dommage, Annie, que le CHAN se déroule au Cameroun en pleine crise du Covid, parce que vous n'aurez pas la possibilité de voir la passion du football au Cameroun.
On la sent dans les rues quand voilà, on aurait rempli. Il y a énormément de monde dans les petits cafés.
Les bars sont des endroits où on regarde énormément les matchs. Et s'il n'y avait pas eu ce Covid, vous aurez vu tous les stades pleins pour tous les matchs, pas simplement les matchs du Cameroun, parce que le Cameroun, il adore le foot. Vous avez vu, lors de la Coupe des Nations de football féminin, les stades étaient régulièrement pleins. Ouais. Les Camerounais, ils aiment le foot. Et encore plus maintenant qu'on a de nouvelles infrastructures, qu'on découvre. Les Camerounais d'une certaine génération ne savent même pas qu'on a joué en Nocturne dans ce pays. Ouais. Pourtant, les Joseph-Antoine Bell ont joué en Nocturne. Et maintenant, retour des matchs en Nocturne. Les gens, ils sont... vraiment, c'est une curiosité, quoi.
Là, on a des infrastructures déjà, au moins ça donne quelque chose pour ce qui est des Lions et du Cameroun.
Pour les compétitions, oui, c'est clair. Et puis ces infrastructures sont de très 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 haut niveau. Maintenant, il y a certainement quelques petites erreurs dues à pas toujours la bonne conception, parce que je suis arrivé tout à l'heure. Moi, j'ai pas été visiter
les stades parce que je ne vais pas me déranger tout seul à y aller. Ceux qui les conçoivent, s'ils m'invitent, je viens. S'ils veulent être aidés, je viens leur donner le point de vue. Mais si un jour Claude Leroy veut planter des buts, il les plante. Mais s'il dit, Joe, au fait, les buts, ça fait quelle hauteur? Bon, à ce moment-là, je viens, on le fait ensemble. Donc, mais sinon, ils sont totalement responsables. Mais les infrastructures, moi, je suis heureux qu'il y en ait et qu'il y en ait de si belles. Maintenant, ensuite, il va falloir toujours la même chose. Il y a toujours une tête humaine au départ de tout. Donc, il faudra une tête pour penser à comment gérer, comment utiliser, comment rentabiliser. Et
une tête, blanc, hein.
Une tête, oui. Alors ça, c'est l'autre problème, mais ouais. c'est pas celui dont on veut parler là maintenant. Mais on se disait, il y a les stades. Est-ce que maintenant il y aura les hommes? Est-ce que vous voyez déjà des joueurs tous les trois? Je voulais vous poser cette question et peut-être Eric aussi, des joueurs qui pourraient déjà être importants pour l'équipe du Cameroun l'année prochaine à la CAN. Joseph-Antoine Bell.
Des joueurs camerounais, oui, ben, on les voit en championnat. Maintenant, le problème, c'est le foot, il faut durer. Même un an, ça peut paraître beaucoup. Un gars qui est en forme aujourd'hui peut ne plus l'être dans un an. Il peut même être blessé, ça on ne souhaite pas. Mais moi, je croise les doigts pour que nos garçons qui jouent, les Toko Ekambi et Choupo et tout ça, qu'ils continuent à évoluer. La seule chose, je ne sais pas combien de temps, combien de générations ça va tenir, mais ces garçons méritent d'être encadrés différemment, d'être approchés différemment. Ils méritent qu'on leur parle différemment. Je crois que c'est terrible parce que ceux qu'on appelle les dirigeants n'ont pas toujours su quel était le dialogue entre des coachs comme Claude Leroy, Philippe Redon, ou même Nepomniachtchi, et les joueurs. Moi, je me souviens très bien être venu à un match à Yaoundé et que Philippe Redon, de regretter mémoire, secoue la tête en disant, finalement, Georges, il a mal pour moi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas d'infrastructure. Donc, tu viens de Bordeaux, qui avait les meilleures infrastructures de France, tu viens ici et tu t'entraînes sur un terrain qui est chauve, avec un ballon, je rigolais tout dégonflé. À l'heure quand, avec un ballon dégonflé, quand Claude parlait, parce qu'il se souvient peut-être pas, mais en 87, je lui ai dit, Claude, moi, je peux ne pas venir jouer en équipe nationale, mais toi, tu as absolument besoin d'un allié comme moi, parce que tu es quelque part où on te dit que le dimanche, il n'y a qu'un ballon sur le terrain, et toi, tu en demandes 30 pour l'entraînement.
Alors, c'est compliqué.
Donc c'est compliqué. Il faut donc ça c'est terrible. Donc pour moi, les joueurs, ils ont besoin de gens qui comprennent ce qui se passe,
qui les encadrent mieux,
et qui les encadrent mieux, et qui les amènent à être réellement motivés. Il parlait tout à l'heure Jean-Bruno. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, les joueurs ont peut-être le passé de leurs aînés, mais nous, ce qui nous était arrivé, c'est on n'a pas fait exprès, c'est le hasard. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai joué gamin avec Mila, avec Baoken, avec Mbida, avec Abega, avec Aoudou. Et
oui, vous vous connaissiez déjà avant. Bon.
Donc, par exemple, quand nous arrivons à la CAN de 84, d'abord à la Coupe du Monde de 82, on se regarde, on était gamin dans la rue. On a regardé la Coupe du Monde 70 au cinéma. Et maintenant, nous sommes en Coupe du Monde. Et donc, malgré les fautes de nos dirigeants, on finit par se dire qu'on ne peut pas se faire ça à nous-mêmes. Laissons ces imbéciles, entre guillemets, et nous, on va malgré tout jouer, puisque on a bien conscience, c'est nous qui sommes là. Et si nous ratons la Coupe du Monde, il a dit tout à l'heure, depuis 90, personne n'est allé au-delà du premier tour. Or, on avait une équipe magnifique en 2002. J'avais prévenu le ministre que cette équipe pouvait aller loin, il faut prendre quelques mesures. On ne l'a pas fait. Donc, ces garçons ne savent pas ce qu'ils ont manqué, ou du moins aujourd'hui qu'ils ont arrêté leur carrière. Ils savent que malheureusement, vous ne pourrez plus. Donc, voilà ce qui était le secret. C'est le fait de se connaître depuis gamin, de pouvoir dire on
de
veut.
De grandir ensemble.
Voilà. Et en 84.
Ce désir ensemble.
Voilà.
Claude Leroy, est-ce que vous voyez dans ces Camerounais une équipe qui peut prétendre déjà à briller l'année prochaine?
Oui, non, mais...
Parce que c'est compliqué dans son propre pays avec la pression.
C'est très difficile, j'en sais quelque chose.
Vous serez là?
J'avais probablement la meilleure équipe au Ghana et on a été éliminé en demi-finale. Donc c'est très compliqué. C'est souvent le stade des demi-finales est probablement le plus compliqué pour une équipe qui reçoit. Parce qu'on se projette déjà en finale avant même d'avoir joué le match précédent. Oui, je pense qu'ils ont beaucoup de bons joueurs.
Ouais.
Alors ils ont pu des joueurs planétaires comme ça a été une époque, mais quand on voit ce qu'un Toko Ekambi réussit à faire avec Lyon depuis plusieurs mois, il a repris complètement confiance, il a capitalisé une confiance incroyable, et c'est vrai que ça peut être un des leaders, parce qu'en plus c'est quelqu'un de qualité, c'est un homme de qualité, intelligent.
Primar Vivien Fauré sur RFI.
Lui et Choupo-Moting qui a été bêtement brocardé à une époque au Paris Saint-Germain, alors que c'est un vrai bon joueur de foot, c'est un vrai leader, c'est quelqu'un qui a de la qualité. Et c'est des joueurs, c'est avec ces joueurs majeurs, s'il y a des grosses personnalités dans une équipe, bien évidemment, si l'entraîneur sait utiliser ses personnalités, bien évidemment, l'équipe peut aller loin. Et au Cameroun, dans le contexte actuel, avec les écrins que représentent tous ces stades, je pense qu'il va y avoir une motivation énorme des joueurs et du public. Maintenant, il faut qu'ils soient parfaitement bien encadrés.
Ouais, ça sera une pression énorme, mais on espère être là. Eric ?
On avait eu déjà un petit avant-goût de ce que ça pourrait donner en espérant qu'effectivement l'an prochain les stades puissent être pleins. À Japoma, même avec un quart seulement de la joue, c'est-à-dire 10 000 personnes, il y avait de l'ambiance, il y avait du bruit.
Ça se sentait.
Ça sonnait bien et on se dit, bien rempli. Waouh, ça peut être une marmite incroyable et ça peut gronder. Waouh, ça on espère, on croise les doigts. Ça puisse être le cas.
C'est déjà la fin de Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé. Merci, Claude Leroy, d'être là de nouveau au Cameroun, au micro. Merci, Joseph-Antoine Bell. Merci. Et Jean-Bruno Tagne aussi. On se retrouve dans la prochaine émission, n'est-ce pas, Eric? Demain, sur RFI, il n'y aura pas de Radio Foot International. Priorité au nouveau président des États-Unis, Joe Biden, et aux émissions spéciales sur RFI. Nous, on se retrouve donc jeudi et on sera toujours à Douala. Merci à tous.
Radio Foot International, au pays des lions indomptables.